Bonjour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à Next Episode, votre podcast consacré aux séries télé, habituellement diffusé le mardi à 19h sur Séance Radio et partout, tout le temps, sur Internet. À retrouver à la demande sur vos applications favorites, Apple Podcasts, SoundCloud ou Podcast Addict. Ici, on débriefe, souvent, on analyse, éventuellement, on s'écharpe, évidemment, mais tout ça avec un respect relatif pour le produit. Cette semaine, l'équipe de Next Episode a fait déplacement sur la Côte d'Azur à l'occasion de la première édition du festival Cannes Série. Tous les jours, à 13h et à 18h, on vous tiendra informé de l'avancée de cette compétition avec mes chroniqueurs de prestige. À mes côtés, Nora Boisouni.
Le prestige, bonjour Romain. Oui.
Et un petit nouveau, le Lady Gaga de la série télé, le chasseur d'infos le plus réactif de l'univers sériel, Jean-Maxime Reynaud.
Je ne m'attendais pas à ça, mais merci.
Alors, on va essayer de vous serrer un maximum d'invités. Et ce midi, Next Episode reçoit Florent Bernard, alias Flaubert, scénariste, réalisateur, acteur et surtout un des auteurs de la série Bloqué, qui était diffusée hier soir hors compétition au festival.
Tu sais comment je sais que t'es fragile ? T'as été voir Indochine en concert.
J'ai accompagné ma meuf.
Justement, c'est encore plus un truc de fragile.
Tu sais comment je sais que t'es fragile ?
Non.
T'as pleuré à la fin de This Is It.
Ouais, mais moi, au moins, Michael Jackson, il est vraiment mort. Toi, t'as pleuré à la fin de King Kong alors que c'est un singe en 3D qui se fait fumer.
Tu sépares la couleur du blanc quand tu fais une machine.
T'aimes bien quand Noël approche parce que ça sent bon la clémentine.
À la boulangerie, tu prends des chouquettes.
Tu t'essuies la teub après avoir pissé.
C'est pas un truc de fragile, ça. C'est être propre, c'est tout.
Être propre, c'est fragile.
T'as une appli horoscope.
C'est bien une remarque de bélier, ça.
Ton code PIN, c'est la date de naissance de ta première meuf.
Tu fais des vide-greniers.
T'es en vacances, t'es toujours chaud pour un badminton.
Tu te mouilles la nuque avant d'aller te baigner.
Au collège, tu faisais des rosaces avec ton compas.
T'as déjà dit « je t'aime » à Siri.
Tu dis à ta mère que tu l'aimes alors que personne n'est mort dans ta famille. T'es allergique à un truc.
Tu regardes des pornos où les acteurs et les actrices s'embrassent.
T'as des lunettes spéciales Eclipse.
Une fois dans un texto, t'as mis « sniff ».
Tu dors en pyjama.
Tu mets de l'après-shampoing.
Tu mets de l'après-rasage.
Tu fumes des lights.
T'as une couleur préférée.
T'as un aspi venin.
T'épluches tes fruits.
T'as une carafe filtrante.
Mais toi, tu baisses ta meuf en ciseaux. Bam ! Niqué. Fragile.
Comment ça en ciseaux ?
Bonjour Flaubert.
Bonjour, ça va ?
Oui, très bien. Alors ce qui est drôle, c'est que ça vous faisait rire en fait, les vannes là qu'on écoutait.
Oui,
Pourtant, vous en êtes l'auteur, vous en êtes conscient.
Oui, je suis très prétentieux. Non, ça me fait rire, mais c'est Aurel San et Gringe qui me font... Mais ça a toujours été le moteur du truc, c'est qu'ils me font beaucoup, beaucoup rire. Et du coup, tu redécouvres les vannes à chaque fois. Puis ça fait longtemps que j'ai pas rematé Bloqué. Hier, on en a diffusé quelques-uns. Et là, d'en entendre celui-là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, donc je redécouvre un peu les vannes.
Qu'est-ce que ça fait alors de regarder ça avec du public cette fois dans la salle ?
Ah bah c'est trop bien, c'est trop bien. Surtout que moi je suis habitué à faire des trucs sur internet, même Bloqué, c'était à la télé, mais en vrai c'était surtout, ça a fait sa petite carrière sur YouTube. Et c'est vrai que c'est peut-être le défaut de créer des trucs sur internet, et que moi je kiffe, c'est qu'on est en manque de réaction quoi. Tu peux pas savoir vraiment exactement, il y a les commentaires, il y a les likes, mais tu sais jamais vraiment ce qui fait rire, ce qui fait pas rire. Et du coup, là, d'entendre des gens rire, c'est super plaisant, c'est très galvanisant. Ouais.
Comment vous êtes retrouvé à travailler sur ce projet ?
Moi, je suis arrivé un peu après. En fait, ils ont commencé. En gros, ce qui s'est passé, c'est que donc Kian Kojandi et Bruno Muschio, Kian et Navo, donc avaient fait la série Bref, évidemment. Et pour les 30 ans, je crois, de Canal, ils avaient fait un épisode spécial où ils avaient invité beaucoup, beaucoup, beaucoup de guests. C'était un épisode, en fait, où les invités changeaient tout le temps hein, selon le moment où tu allais sur l'URL du site. Enfin, c'était un truc vraiment bien foutu. Et parmi les invités, il y avait Aurel San et Gringe, les casseurs-flotteurs. Et ils improvisaient des conneries, machin et tout. Ça s'appelait « Deux connards dans un abribus ». Et je sais qu'Aurel avait une volonté de faire un truc un peu programme court. Et Kian se dit « Mais putain, Aurel et Gringe dans un canapé qui disent de la merde, c'est un concept en fait. » Malgré ce qu'on pourrait croire.
C'est le concept le plus light de la série, enfin de la télé. Mais
en fait, c'est ce que je pensais aussi. Après, je me suis rendu compte, mais en fait...
C'est beaucoup.
Non, c'est pas ça. Non. Mais que beaucoup de concepts de programme court sont light. Enfin, tu vois, tu regardes un gars et une fille, c'est une vie de couple. C'est très light. Et en fait, après, c'est la personnalité des acteurs. Et nous, on avait la chance d'avoir deux comédiens avec une personnalité de ouf. Donc voilà, ils font ça. Ils font un pilote à Canal, machin. Il y a des retours, des trucs. Et au moment où Canal dit go, ils cherchent des auteurs. Et moi, je connaissais Bruno et Kian d'avant. Ils connaissaient mon travail sur Internet. Ils savaient que j'avais des sensibilités proches, non seulement des leurs, mais aussi de celles d'Aurel San ou de Gringe. Des trucs où on met des blagues, où on est des branleurs, on est un peu dépressif, mais en même temps, on s'envoie des trucs dans la gueule et tout, machin. Et donc, du coup, voilà, on est parti sur de l'écriture avec aussi Clément, Cotentin, et on a fait ça pendant 130 épisodes, je crois. Comment ça
se passe? On se cogne tout ce qui se fait en programme court à la télévision française depuis les 20 dernières années? Ou alors on se dit, tiens, non, en fait, on part bien en tête, on fait notre truc?
Non, on fait notre truc, en fait. C'est juste que, vu que le concept, comme tu disais, c'est vraiment juste deux gars, enfin, c'est assez light, c'est deux gars dans un canapé. On a passé une grande partie de notre vie avec d'autres gars dans des canapés. Et donc, en fait, c'est. Voilà, c'est, de toute façon, bloqué, c'est bref de comptoir, mais aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que tu balances des phrases. Au début, c'était ça. Après, c'est devenu un truc un peu plus où on mettait des dialogues. C'était plus des plans-séquences. Il y a une évolution, en fait, dans la série, si tu regardes bien, dans ce qui nous excitait en écriture et eux en jeu. À savoir, au début, c'est vraiment des punchs, limite des tweets, machin, sur un thème.
Des punchlines.
C'est des punchs. Et avec le temps, c'est devenu des petites situations. Et puis, les personnages se sont beaucoup plus créés dans nos têtes. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on aimait bien que Gringe soit un peu méchant, machiavélique. Et en même temps, profondément triste quand tu réfléchis bien. Et que Aurel soit un full débilos, turbo-con. Et ça, on s'est dit que c'était vraiment, ça marchait bien. C'est les duos qu'on aime tous en comédie depuis des années en France. Tu vois, Bourvil de Finesse. Bah voilà, là, t'as Aurel et Gringe. C'est un débile et un mec qui subit.
C'est les duos Bourvil et de Finesse.
Non, mais tu vois, c'est le clown blanc et Bozo, quoi. C'est ça, c'est que t'as Aurel qui sort des conneries plus grosses que lui et Gringe qui fait.
Nora a une petite question.
Ouais, moi, j'ai envie de parler un peu de la tristesse. Pour moi, vous êtes un peu le PNL du programme court, en fait. Il y a ce côté mélancolique et on s'envoie des vannes et on a un personnage chacun, comme dans PNL. Moi, je me suis demandé pourquoi tant de tristesse, pourquoi tant d'introspection. En fait, dans Bref, on le voyait déjà, on le voit dans Bloqué que vous avez coécrit. On le voit aussi dans le Floodcast, votre podcast, où il y a plein de potes qui viennent et vous parlez beaucoup de jeunesse.
Ouais.
Et vous êtes plus si jeunes maintenant, on est tous vieux, on peut le dire.
Ça commence en tout cas.
Robert, vous avez quel âge? Voilà.
Moi j'ai 26 ans. Ouais.
Ça va, bah,
vous êtes
jeune.
Encore semi-jeune. Encore là, il y a la street cred PNL qui peut encore être là. quand on arrive proche de la trentaine, on se pose plein de questions et je trouve qu'il y a vraiment ce motif de la nostalgie et en tout cas de l'introspection des années collège. Et est-ce que c'est vraiment une obsession? Est-ce que vous pensez que ça vous aide à vous débarrasser de vieux démons en les expliquant? C'est cathartique ou c'est vraiment juste que c'est kiffant d'écrire des choses là-dessus?
Bah, en fait, c'est vrai que si je regarde un petit peu, c'est quand même, en tout cas moi dans mon travail, mais même Aurel, Gringe ou Kian et Navo, c'est quand même très très présent dans ce qu'on fait. Mais ça n'a jamais été réfléchi ou analysé. Maintenant, c'est les gens qui me disent et je fais oh, putain, vous avez raison en fait, Sacha. Mais du coup, j'essaie de pas trop l'analyser. Je me dis bon, apparemment, c'est le sujet qui me plaît en ce moment. Peut-être qu'il y aura un autre truc. Mais après, pour la tristesse présente dans la comédie, je pense que c'est un truc qui est pas du tout calculé avec et on partage ça un peu tous les auteurs de Bloqué, c'est-à-dire qu'il y avait un truc de ouais, des fois ça nous fait rire. En fait, le concept même de Bloqué est super triste. C'est des mecs qui vont pas sortir. Et même quand on réfléchissait à comment finir la série, ça a été de longs, longs, longs débats. On se demandait alors comment ils vont faire, est-ce que machin, est-ce que l'appart revient à quelqu'un d'autre, est-ce que machin et tout. Et en fait, on s'est dit que faire une boucle, en fait, le dernier épisode se conclut avec la première phrase du premier épisode, était le truc le plus logique à faire, parce qu'en fait, ils vont pas s'en sortir, quoi. Et ils vont rester dans cet appart, à dire à pas sortir, et à se plaindre de leur vie. Gringe, par exemple, le dernier épisode parle de ça. C'est Gringe, il arrête pas de se plaindre de tout, et Aurel, il fait, ouais, mais on fait rien. Il fait, ouais, c'est vrai. Bah, vas-y, je bois une bière. Donc, voilà, c'est des trucs, moi, qui m'excitent beaucoup. C'est peut-être après une vision un peu pessimiste de la vie, mais moi je la trouve profondément triste et du coup j'en fais des blagues. Bah voilà, du coup j'essaie de mettre ça dans ce que je fais.
Est-ce que c'est pas un peu frustrant de faire aussi peu d'épisodes finalement?
Je sais pas.
Ça aurait pu durer 12 saisons quoi.
Ouais, mais en fait il y a quand même 130 épisodes. Ça c'est le truc. C'est-à-dire que là maintenant aujourd'hui, quand je l'ai mal, je me dis ah, putain, ça aurait été marrant d'en refaire d'autres et tout. Mais je me souviens que sur le moment, on n'a pas galéré, mais ça a quand même. Tu vois, au bout d'un moment, tu creuses ta tête, quoi. Tu as dit, voilà, on va pas faire un épisode 17 sur Si j'étais riche. Et on essayait d'avoir vraiment on voulait vraiment être fiers de chaque épisode. Il y a plein d'épisodes qu'on a foutu à la poubelle. On avait fait un sur la cigarette, par exemple. Après, on se dit, mais en fait, ça marchait pas. Enfin, tu vois, on a fait plein de trucs. En plus, moi, je les montais aussi, beaucoup. Je montais les épisodes de Bloqué parce qu'en fait, je trouvais que c'était la dernière écriture. C'est-à-dire que le rythme, vu que c'est un plan fixe, le rythme des blagues, la dernière écriture se faisait d'autant plus, ça se fait toujours au montage, mais ça se faisait d'autant plus sur un concept comme Bloqué. Donc c'était beaucoup de temps, beaucoup de travail. Après, moi, Bloqué, c'est peut-être aujourd'hui le projet dont je suis le plus fier. Alors,
d'accord.
C'est pas moi qui étais à l'origine, mais parce que j'ai eu un plaisir à travailler avec des gens, j'ai eu plaisir à mettre beaucoup de choses en moi. Il y a beaucoup de pensées, de Gringe ou d'Aurel qui sont des trucs auxquels je pense et qui sont des trucs que je voulais aborder. Donc, et j'ai eu la possibilité de le faire avec des
mantras bouddhistes.
Ouais, non, mais c'est ça. Puis avec des clowns, voilà, que je kiffe. Et puis moi, j'aimais beaucoup le travail de tous ces gens-là. Donc, c'est vrai que quand je prends du recul, ouais, je suis très content. Mais après, ce qui est bien, c'est que je me dis que là, je parle des personnages et pas des comédiens, mais Aurel et Gringe, moi, ils me font penser, je cite beaucoup le gars, Jay Silent Bob de Kevin Smith, qui étaient en gros deux mecs défoncés qui se baladaient un petit peu partout. Et c'est vrai que moi, si je devais retrouver les persos d'Auré Lagrange, ça me ferait kiffer de les foutre ailleurs. Ils croisent d'autres personnages, ou, tu vois, bah, comme ils ont fait avec Serge Le Mito, par exemple. Tu vois. Moi, je trouve que le plan où juste ils sont dans la rue, Auré Lagrange et Serge, d'un coup, tu te dis, oh, putain, mais ça y est, j'ai envie d'un peu de les voir ailleurs.
Dans le bureau des légendes.
Ouais. Ah, c'est, putain, bon concept.
Comment ça se passe? Vous venez du web, vous avez travaillé pour Golden Moustache, Studio Bagel. On va écouter un petit extrait de ce que vous faisiez avec Golden Moustache.
Boyfriend et tout, mais je crois que ça me va pas parce que je suis un peu, enfin j'ai des hanches et tout, donc c'est pas idéal, tu vois. C'est pas fou, tu vois.
Waouh. En tous les cas, je voulais te dire, c'est vraiment cool de passer du temps avec toi.
Ouais, je suis contente. Je trouve que ça se passe super bien entre nous. D'ailleurs, si tu veux passer à la maison tout à l'heure...
Ouais.
Non, enfin, si tu veux, il n'y a pas de...
Oui, bien sûr, pardon. Écoute, on s'entend vraiment bien tous les deux, alors je pense que je peux être honnête.
Bien sûr, vas-y.
Je voudrais pas te gêner...
Mais tu rigoles, t'inquiète, ça va. Dis-moi.
J'ai deux bites.
Est-ce que vous êtes fier, Flaubert?
Toi, tu m'as fini le cabache. Vous êtes fier. N'avez-vous pas honte? Non, mais ça, après, c'est l'autre truc. C'est drôle parce que ça rejoint un peu. C'est que quand tu fais beaucoup de trucs où justement tu mélanges avec un peu de mélancolie, un peu de machin et tout, t'as juste envie de faire des trucs full débiles. Celui-là en fait partie. Mais voilà.
Comment ça se passe? Ça devait être une écriture assez intense quand même, parce qu'il y avait énormément de sketchs, en tout cas pour Golden Moustache.
Tu parles de Golden Moustache? Ouais. Bah oui et non en fait, parce que ça restait très artisanal. Tu vois, moi tous les sketchs que j'ai écrits, je les ai réalisés. C'était presque plus intense à Studio Bagel, parce qu'en fait c'était une émission télé où les sketchs de l'émission télé allaient sur le web, où là pour le coup j'ai dû écrire une quarantaine de sketchs en peu de temps. Donc là pour le coup c'était intense, c'est un peu plus dans un truc. Mais moi ça m'excitait, parce que moi je suis un fan du SNL, je suis un fan de... Tu sais, c'est des méthodes de travail qui, moi, me plaisaient. Mais Golden Moustache, c'était beaucoup plus artisanal. C'était beaucoup plus... On abordait chaque vidéo. Alors là, vous avez mis la plus débile que j'ai pu faire.
Mais y en on l'a beaucoup cherché. Hein.
Non, bah, c'est bien. Vous avez trouvé. Mais c'est vrai que j'en ai fait d'autres qui étaient plus des petites histoires aussi. Et du coup, ça m'a été un peu plus de travail. Et encore une fois, moi, j'écris, je réalise, mais j'aime bien monter mes vidéos aussi. Donc, et puis, tout est artisanal. Donc, en fait, on est quand même très présent, même s'il y a des équipes qui nous aident. On est quand même très présent à chaque étape. Et donc du coup, et c'est ce qui fait que c'était chambé. Enfin, c'est ce qui fait que moi je regretterai jamais cette période du web, parce que ça m'a appris un peu tous les métiers, et c'était trop bien de l'idée à la sortie, au texte qu'on met dans les crédits pour les gens qui vont faire plus pour lire ce qu'il y a machin, d'accompagner la vidéo, le bébé jusqu'à la fin. C'était mortel.
Est-ce qu'il y a des différences fondamentales entre écrire pour la télévision et écrire pour le web? Il y a des trucs qu'on peut s'autoriser sur le web qu'on ne peut pas s'autoriser à la télévision? Est-ce qu'on pense à la ménagère de moins de 50 balais qui est dans son canapé et qui peut tomber sur le programme? Ou peut-être à la gamine de 7 ans qui peut regarder la télévision à ce moment-là? Ou alors est-ce que sur le web, on se dit justement, on peut se lâcher ou pas? Est-ce que c'est différent?
Bah alors là, bloqué est un mauvais exemple, parce que pour le coup, on n'a pas du tout pensé à ça, parce qu'on était vraiment en mode, bon déjà, on est un peu Canal, enfin, on s'était diffusé sur Canal dans le petit journal, qui était un peu le petit journal à l'époque, qui était un peu genre, bon là, c'est quand même libre, on peut dire ce qu'on veut, c'est cool, machin et tout. Et puis de toute façon, bloqué, ça marchait que si on était full, tu vois, fallait faire ce qu'on avait en tête et pas trop se censurer. Après, la télé en général... Franchement, ça dépend de comment tu l'abordes, ça dépend des chaînes. Moi, j'ai pu écrire, j'avais fait un sketch show pour W9, ils savaient ce qu'ils étaient venus chercher, ils nous ont pas du tout ennuyés.
Vous
ne
pouvez pas se plaindre après, hein. Vous saviez ce que vous aviez.
Non, mais c'est ça. En fait, je crois que la chance qu'on a, c'est que la télé n'a jamais été, et je dis ça à Cannes Series, qui est peut-être un peu débile, mais ça n'a jamais été un objectif en soi, en fait. Moi, pour moi, c'est une façon de diffuser. La télé, c'est super parce qu'on a un budget. Pardon, on a un budget un peu plus important. Mais c'est une façon de diffuser. Donc moi, si en fait une chaîne me dit, voilà, on aimerait faire ci, mais tu le sens très vite en plus dans les réunions, on aimerait faire ci, par contre, bon voilà, peut-être ce genre de truc, machin, et que c'est un truc que je veux faire. Et c'est pas forcément du trash ou du... Tu vois, mettre de la mélancolie dans une série qui se veut humoristique, ça peut être un frein, tu vois. Si tu fais un truc, je sais pas, si tu fais un truc qui est tout le temps très 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 rigolé, tu dis, bah voilà, cet épisode-là, j'aimerais qu'à la fin, un des seconds rôles meure. Bah, la chaîne, elle va dire, bah non, ça va déprimer les gens.
Tu vois. Il paraît que c'est pour ça que vous avez pris un peu vos distances avec Golden Moustache.
Avec les suricates, ouais, voilà. Avec le sketch syndrome post-rupture qui a marqué un peu la divergence.
La scission.
La scission, le split, ouais. La divergence créative, puisque vous alliez vers une écriture de l'intime, qui était avec cette mélancolie qui venait, puis très personnelle, et apparemment, c'était pas ce vers quoi les autres voulaient s'engager.
Ouais, en tout cas, pas comme ça. C'est ça, en fait. C'est pas genre sur les quatre, vous voulez continuer à faire du gros gag et moi, je voulais être deep, profond, machin. Non, non. Des gens comme Raphaël Descraques font aussi ce genre de choses. C'était plus un truc de la façon de le faire. C'est ce que j'ai déjà dit dans un podcast, c'est que on avait tous envie de faire la même chose, mais pas vraiment de la même façon. Tu vois. Moi, par exemple, j'adore la grossièreté. Et je trouve que c'est. Non, mais tu vois, la grossièreté, je trouve que c'est un espèce de truc pudique pour dire des trucs tristes. C'est-à-dire que. J'ai beaucoup de mal à me confier ou à parler de choses qui me touchent, la nostalgie, se faire larguer, les problèmes avec les parents, sans mettre un truc un peu autour qui dit allez, vas-y, on est un peu grossier, on est un peu. Voilà, parce que sinon j'ai l'impression de me foutre à poil et je suis pas bien, quoi. Donc c'est le genre de choses qui sont importantes pour moi. Donc,
pas à l'aise avec le naturisme.
C'est ça, il faut mettre un peu de gros mots, il faut mettre des blagues, il faut mettre. Voilà, sinon je trouve ça pas intéressant et je me dis juste, bon, bah là, t'as voulu me parler de tes problèmes. Divertis-moi, quoi. Ça reste du divertissement et donc voilà, c'est important.
En fait, c'est juste pour finir, c'est un peu de la branlette habillée, du coup, parce qu'on disait que c'était des branleurs sur un canapé.
Alors attends,
ils se branlent habillés derrière un paravent, quoi.
J'essaie de réfléchir à l'analogie. Je vais dire oui dans le doute.
On va dire oui, branlette.
Voilà, disons que c'est ça.
Jean-Maxime, une question.
Pour revenir sur les chaînes de télé, t'as bossé pour TF1 aussi.
Oui.
Presque adulte.
Oui.
Avec des youtubeurs, c'était normal. Oui. Cyprien, tu peux nous raconter cette expérience qui devait être assez différente quand même.
Alors, qui était très différente. En fait, presque adulte, en gros, c'est. C'est Cyprien et Norman qui veulent faire un programme court sur un peu leur vie en dehors des vidéos. TF1 est évidemment méga chaud parce que c'est des gens qui drainent énormément d'abonnés sur YouTube et se disent bon voilà, on va tenter le passage. On est un peu dans un moment charnière où t'as le cinéma, la télé, machin, ils veulent tester, pas vraiment, ils sont entre les deux. C'était très différent, mais c'était bizarrement pas différent pour les raisons que les gens pourraient croire. C'est-à-dire que par exemple, TF1 n'a pas du tout été chiant. Tu vois, j'aurais. Adorer te dire, mais la télé nous censure, mais en vrai, franchement, ils n'ont pas
autant été... de liberté que sur le web ou chez ou
à en fait, c'est juste que c'était pas du tout la même façon de raconter. Moi, j'ai écrit pour Norman et Cyprien, j'écris pas pareil que pour Aurel et Gringe. C'est-à-dire que Aurel, Gringe, Can et Navo sont évidemment très très proches de ma sensibilité. Et Cyprien, Norman, j'ai mis un peu de ma sensibilité dans leur moule qui est différent. C'est aussi, je pense, le talent d'un auteur, c'est de réussir à écrire pour des gens qui ont des univers différents. Presque adulte et beaucoup plus grand public, et on peut moins parler de branlette et du fait d'avoir pleuré à la fin de King Kong. Donc voilà, c'était autre chose. C'est presque adulte. Ouais, non, TF1 a vraiment pas été chiant. C'est-à-dire que les premiers montages, par exemple, moi en tant que scénariste, me plaisaient pas, et j'ai dit, bah faut les remonter, j'aimerais bien remonter le truc avec le réal et tout. Et en vrai, en télé, les gens disent, bah non, en fait, il faut que ce soit validé de 4 semaines avant, on change pas les choses comme ça, machin. Et on a eu et franchement, TF1 n'a pas été relou, ils ont fait « Ouais, allez-y, faites-le ». Et en plus, voilà, donc c'est des trucs qui sont un peu surprenants. Le public ne se rend pas forcément compte, mais c'est un truc où moi, j'ai été surpris qu'ils disent « Oui ». Quoi. On a un épisode de Presque Adulte, un que j'ai écrit, parce que je ne les ai pas tous faits, moi j'ai écrit que quelques épisodes dessus. Un épisode que j'ai écrit où, en gros, Norman enterre son oncle. Et en fait, c'est Cyprien, pardon, qui enterre son oncle. Et Nathalie n'est jamais allée à un enterrement. Et voilà, et donc du coup, pour elle, c'est un peu Disneyland. Elle prend des photos, elle veut savoir ce qui se passe, machin. Et c'est un truc sur le fait qu'il enterre un gars qu'il ne connaissait pas. Donc c'est fait, encore une fois, dans le moule d'un programme court sur TF1 avec Norman, Cyprien et Natou. Donc forcément, c'est plus gentil que ce que j'aurais fait moi. Mais on parle quand même d'un gars qui enterre son oncle et qu'il ne le connaissait pas. Et c'était des trucs que je trouve ça cool. Un samedi avant The Voice, l'été, le TF1 nous ait pas dit « Bah non, non, rajoutez plutôt un problème avec les voisins qui font du bruit parce qu'il y a la fête et que voilà. »
On vient de voir la tête d'Orelsan passer à l'instant, en fait.
Ah,
je connais le rôle, là.
Il y a Bruno juste derrière toi. Là, on est entouré de stars.
Ouais, tout le monde, ils scrutent les conneries que je dise.
Moi, j'avais une question sur... on parle de cet univers-là, qui est un univers qui est quand même très masculin. Je sais que la question a été posée hier soir.
C'est vrai.
Vous écrivez pour des garçons, alors à part pour Natou, pour des garçons, pour des hommes. Est-ce que c'est parce que vous écrivez que sur ce que vous connaissez, on va y arriver ? Ou est-ce que c'est une flip d'écrire sur des femmes en pensant pas avoir le bon ton, pas savoir de quoi on parle ?
Je sais pas. En fait, je pense qu'il y a une évolution là-dedans. Je pense aussi que la société évolue et qu'on évolue avec. Des questions que je me posais aujourd'hui ne sont pas les questions que je me posais il y a 5 ans. Je trouve qu'en final, bizarrement, la période où on bossait le moins avec les femmes, c'est quand j'étais dans Suri 4. Parce qu'en fait, dans Suri 4, c'est quand même beaucoup...
un peu, ouais.
Ouais, et puis c'est beaucoup des problèmes de mecs de 20 ans, donc ils ont des problèmes avec les meufs, et puis les meufs ont fait des blagues sur le fait de les sauter, machin et tout. Donc au final, la période la plus... pas très cool à ce niveau-là, c'était Suri 4. Alors que personne nous l'a dit, pour le coup. Tu vois, donc c'est pour te prouver que la société évolue. À l'époque, personne nous a dit, bah les gars, elles sont où les meufs ? C'était assez... Personne se posait la question.
Même pas les meufs.
Non, non, vraiment, même pas les meufs. C'était très, très étrange. Mais parce que même elle évolue, tu vois, elles se disent, mais en fait, c'est vrai, putain, merde.
Et donc, je me le dis tous les jours.
Voilà, c'est ça, j'en fais bordel, en fait.
Mais c'est je pas suis où,
tout,
on est où.
Mais c'est pas du tout normal. Et par exemple, bloqué, effectivement, il n'y a pas de meuf. Là, c'était, je trouve, très logique avec le fait qu'ils sont dans une loose absolue et que voilà. Il y a quand même Sophie Marie qui vient, et par exemple, Sophie Marie. Est un personnage de plan cul, mais qui se pose aucun problème. Elle est jamais vue comme la meuf qui dit bah il est où Aurel machin. Elle s'en bat les couilles. Elle est là, elle fait genre ouais bah j'étais là machin. Ouais on a fait des trucs de cul, qu'on parle très librement. Donc le peu de meufs qu'il y avait, on avait essayé de les écrire comme on les côtoie, à savoir pas du tout dans un cliché de trucs comme ça. Après moi j'ai mis des meufs quand même sur dans mes vidéos sur Golden Moustache, le bureau des rêves, l'héroïne c'est Justine Le Potier. J'avais fait un truc qui s'appelait Simba où c'est une meuf justement qui parle de cul avec son pote barbecue. Là, on a mis un extrait de, avec Sophie Marie Larouille, encore une fois, qui est aussi l'héroïne de ce sketch-là. Tu vois, donc il y a Nathalie dans Presque Adulte, et là, j'ai écrit Canal Plus va lancer un espèce de truc. Je peux pas trop en dire, je crois. En fait, je sais pas ce que j'ai le droit de dire, donc je vais éviter de trop en dire. Mais un format où il y a plusieurs 22 minutes autour des personnalités de Studio Bagel qui font genre une histoire autour d'eux. Et j'ai écrit celui d'Alison Wheeler, par exemple, qui est une comédienne chamée. Et on en a écrit un ensemble. Et j'en ai écrit un et je vais le réaliser, celui de Nathalie, donc Natou. Donc en fait, c'est une évolution logique, je pense. On essaie de se nourrir de ça. C'est selon les histoires, en fait. Après, je me vois pas, moi, en tant que mec, commencer à écrire sur des problèmes que peuvent vivre les femmes parce que c'est un truc que je connais pas et je l'écrirais mal. Mais par exemple, Alison, quand elle est venue me voir avec son concept, qui est un truc très féminin, sans vouloir trop en dire, mais qui sont des problématiques de meufs qui tombent enceintes et de trucs comme ça. Moi, je l'ai accompagnée, mais c'était elle qui avait les idées. Et moi, je lui ai juste dit, bah voilà, ça c'est marrant si on fait comme ça, si on fait comme ça.
Mais du coup, il paraît que tu as une passion comédie romantique.
Un peu.
On t'a dit ça. Putain, j'ai dit tu. On vous voit les gens.
Ah non, mais tu. Alors là, vraiment, les gars.
Vous, Robert, vous avez une passion comédie romantique. Et on parlait aussi de Master of None. Il paraît que ça vous fait kiffer. Et peut-être Love.
Love, c'est cool.
Ce genre de comédie, dramédie. Ouais. Mais du coup, est-ce que vous avez envie d'écrire une comédie romantique ou un truc un peu dans le genre? Et du coup, il faudra que vous écriviez, si c'est un couple hétéro, le rôle de la femme.
Non, mais en plus, écrire le rôle de la femme me fait pas peur en soi, vraiment. Hein, c'est pas ça, c'est juste. Ça dépend des problématiques. Et de toute façon, j'aurais forcément toujours un point de vue de garçon parce que c'est ce que je suis. Mais non, moi, en plus, c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a un peu un boulevard. Quoi. C'est là quand j'ai commencé à me dire, vas-y, je fous des meufs. C'était trop bien parce que Justine Le Potier, je lui ai fait dire des trucs horribles parce que c'est vraiment marrant, une meuf. Justine Le Potier, par exemple, est une comédienne qui peut dire des trucs horribles et en fait, c'est trop marrant. Et c'est vraiment parce que c'est une bonne comédienne, c'est quelqu'un qui joue très bien. Et en fait, ça avait rajouté ce truc un peu de ah ouais, ça se fait pas trop. Enfin, c'est pas ça se fait pas trop, genre les gens se l'interdisent, mais c'est juste les gens le font pas. Et du coup, voilà, moi je suis fan de Sarah Silverman, d'Amy Schumer, Amy Poehler, Tina Fey. Ces meufs-là, elles sont non seulement très talentueuses, mais en plus, elles avaient un espèce de boulevard devant elles, ce qui fait qu'elles étaient charmées. Parks and Rec, on n'avait jamais vu, Parks and Recreation, on n'avait jamais vu une nana se foutre autant dans la merde dans une série, être juste vraiment un clown, une espèce de Will Ferrell au féminin. Et ces trucs-là sont super excitants. Donc en fait, c'est aussi trop bien quand t'es scénariste ou les réalisateurs, c'est que du coup, t'as un peu un boulevard devant toi pour ça, quoi.
On parlait tout à l'heure un petit peu de Bureau des rêves. Je propose d'écouter un petit extrait.
D'accord.
Quelqu'un a une idée, là?
Ouais, j'ai. Il pourrait se marier, ok, avec une meuf, une bonne meuf, genre Ariane Massenet, mais dans un kebab, pas dans le sandwich, hein, dans le restaurant. Et à ce moment-là, entrerait par la fenêtre des poulets.
Je t'arrête tout de suite, ça veut rien dire, merci, c'est bon, stop.
Ça veut rien dire, on s'en fout. L'autre, quand il va se réveiller demain, ben, il interprétera ce qu'il pourra, et puis voilà, comme d'hab.
Et
ouais.
Pourquoi pas un rêve de cul? C'est facile à faire, et puis ça fait toujours plaisir.
Là, on est dans la tête d'un personnage assez taciturne dans le bureau des rêves. Et là, on est une espèce d'équipe de scénaristes qui brainstorm pour lui créer des rêves.
Pour lui écrire des rêves, ouais.
Ça va, vous dormez bien la nuit?
À l'époque, c'était l'enfer. Mais ça, pour le coup, le bureau des rêves, c'est vraiment là, tu peux pas faire plus personnel. Je venais de perdre un proche, j'étais insomniaque et j'avais des problèmes. Le bureau des rêves parle à plein de niveaux. C'est drôle parce que c'est vraiment juste une petite vidéo de 4 minutes et ça a pas la prétention d'être plus. Mais c'est vrai que si je me mets par rapport à ça, ça parle de plein de choses qui me touchaient à l'époque, délibérées. Et d'autres choses pas du tout délibérées. Par exemple, ça parle de quelqu'un, le personnage de Justine Le Potier, qui veut écrire des trucs dark, et le reste de l'équipe dit « Non, mais ça va, c'est bon, on a compris. » Et en fait, et vraiment, je m'en suis pas rendu compte sur le moment, je le promets, c'était aussi un peu ce que je vivais dans Suricate. Et c'est un truc que je me suis pas rendu compte, c'est le directeur d'écriture de l'époque, Vladimir Rodionov, qui avait mis le doigt dessus. J'ai fait « Ah merde, mais t'as raison !» Et donc du coup, c'est pour ça que c'est trop bien comme métier scénariste, c'est que vraiment, tu fais ta propre psychanalyse en même temps que trouver des idées et tu touches de l'argent pour ça, ce qui est quand même le, vraiment le bon côté par rapport à aller chez le psy.
Et qui est l'inverse en fait.
Voilà, c'est ça, vraiment. Donc voilà, non, c'était super cool à faire ça.
Est-ce que c'est pas le parcours classique du mec qui commence par écrire des blagues et puis qui finalement commence à aller vers des choses un peu plus intimes, un peu plus dark, un peu plus poétique aussi?
Bah je sais pas, parce que justement en fait, on est allé très très vite dans l'intime en fait, dans Suri 4, c'est-à-dire vraiment très très vite, on a mis nos trucs qui nous faisaient peur et tout, parce que justement, pareil, on parlait de boulevard, c'est que des fois les trucs qui se font pas te laissent beaucoup de place. Et par exemple, à cette époque-là, Internet, YouTube, il y avait un vrai truc de tout le monde faisait que de la blague, que de la blague, que de la blague, que de la blague. Fallait être drôle, fallait un rire toutes les 3 secondes. C'était très rythmé, c'était du jump cut, c'était machin. Et du coup, on se fait, ah, venez, on se pose, on fait des trucs, on fait des petites histoires. Et puis, si c'est pas toujours drôle, on s'en fout, on teste et machin. Et du coup, en fait, presque l'inverse, c'est des fois, dans Bloqué, c'était ça. Quand on commençait à écrire un ou deux épisodes, où on caresse du doigt la dépression, la solitude, hop, on faisait un épisode vraiment full débile pour, tu vois, pour aussi.
C'est lâcher la pression un peu, quoi.
Non, mais lâcher la pression, et parce qu'on aime ça, vraiment, je veux pas du tout mettre sur un piédestal faire de l'intime et faire, ouais, et puis on fait des trucs débiles aussi. Moi, je trouve que des fois, écrire un truc débile, moi j'ai beaucoup plus de. Je pourrais jamais faire de ma vie ce que fait par exemple un Will Ferrell qui arrive à tenir une comédie d'une heure et demie avec que des blagues, que des blagues, que des blagues, que des blagues. Et c'est pour ça que par exemple, là, on est dans une émission de série télé, c'est très, 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 très rare les séries où c'est que des blagues, que des blagues, que des blagues, parce qu'au bout d'un moment, tu peux plus tenir le rythme, c'est beaucoup trop dur. Tu as besoin que les gens s'attachent à des personnages, soient attristés par eux, se sentent concernés par eux.
Ah oui, et finalement, dans la comédie, il y a toujours un petit fond dramatique.
En tout cas, en série, mais au cinéma, pas forcément. Tu vois, les hot shots, les scary movies, les Will Ferrell, ça dit des choses intelligentes sur la société. Les Will Ferrell sont des pamphlets, mais tu as que des blagues, que des blagues, que des blagues. Et ça, je trouve que c'est d'une difficulté. Je me sentirais incapable de faire un truc pareil, par exemple.
Il paraît que vous êtes fan de Xavier Dolan.
Ah, j'adore Xavier Dolan.
Racontez-moi.
Et il est là, putain, waouh.
Qu'est-ce que vous aimez dans le cinéma de Xavier Dolan?
Je pense déjà c'est un truc générationnel, c'est-à-dire qu'effectivement moi j'ai 26 ans et parfois je me retrouve pas dans des comédies ou des trucs comme ça, juste je sens parce que c'est un décalage de génération. C'est-à-dire que je me dis ça a l'air trop marrant, ça a l'air très bien fait, il y a des millions de personnes qui y vont donc je suis pas non plus un anti-système, mais je sens que c'est juste, c'est pas ma génération. Et Xavier Dolan parle de choses qui me touchent et qui et je saurais pas mettre le doigt dessus exactement pourquoi, mais il y a aussi ce truc là par exemple Xavier Dolan est très drôle, enfin je trouve qu'il y a de la comédie dans ses films, les gens
au César surtout,
ouais.
Non mais dans Les Amours Imaginaires très marrant, dans la scène de danse c'est sur le canapé, ça fait il y a un petit côté Bloqué et puis sauf qu'on regarde les gens,
on a plagié Dolan avec Bloqué. non mais il est drôle, tu vois, même dans Juste la fin du monde, Cassel il a des ruptures, Nathalie Baye elle sort des punchs. Il y a des trucs, il sait faire ça aussi, et moi je le trouve, tu vois, il a une image que j'ai jamais compris, parce que moi je le trouve, tout le monde le dit, ouais c'est un prétentieux qui, putain moi je le trouve à crever de rire David Dolan, il fait des vannes, il parle de Titanic, il t'en parle avec une passion, et du coup moi je me, voilà, déjà un mec qui dit voilà je fais des films un peu auteur, mais sachez que je suis fan de Titanic et de Jumanji, je me retrouve à fond dans son discours, je fais mais voilà, on n'est pas obligé de dire j'ai vu tous les Godard pour faire un truc un peu perso quoi, on peut aussi dire ouais j'ai vu des Godard, je kiffe Pierrot le Fou, je kiffe ce genre de film, mais je kiffe aussi Jumanji quoi.
C'est pas le côté anglo-saxon qui est plus décomplexé qu'en France. En France c'est vrai qu'on se sent pas très légitime si on n'a pas vu les grands classiques, que ce soit en série ou en film, les Américains et les Canadiens anglo-saxons ont ce côté bah ouais moi j'aime la pop culture en fait, c'est une nation de pop culture, est-ce que vous sentez cette difficulté à essayer d'être légitime en n'ayant pas pas fan de Truffaut, etc.
Ouais, pour le coup, je suis méga fan de Truffaut, mais c'est pas tant un problème de légitimité qu'un truc de, comme je disais tout à l'heure, un truc qui se fait pas. Et en fait, des fois, il y a aucune raison. Tu vois, il y a aucune raison pour laquelle on met pas plus de meufs dans les séries techniquement. Tu vois, c'est juste on le fait pas. Et ce serait bien que ça change. Et je pense que dans un vraiment un problème bien moindre, la pop culture, c'est un peu ça en France, c'est-à-dire que on a peur, par exemple, d'être très daté. Tu vois, on a peur de dire ouais, mais attends, si je fais une vanne sur tel film, est-ce que ce sera Rama dans 3 ans quoi. Et tu vois, hier, on a diffusé des épisodes de Bloqué, mais il y avait aussi des épisodes de Bref et de Serge Lemiteau. Et Serge Lemiteau, il a une vanne sur Nuit Debout, bah, elle a fait rire, en fait. Parce que même si c'était un truc dans le temps, à une époque, les gens, ça restera dans leur mémoire. Et même, tu vois, moi, je suis aussi, j'aime beaucoup le cinéma de Seth Rogen. Seth Rogen, il fait des refs ultra précises. Attendez, excusez-moi, il y a un gars sur ma gauche.
Manger avec nous. Là, alors pour ceux qui ne voient pas mais qui écoutent, on a Serge Lemiteau qui vient d'arriver vraiment.
Moi j'ai très faim.
On va vous le rendre. Bah,
j'aimerais juste aller au bout de ce truc-là. C'est juste, je pense que c'est pas encore dans la génération d'avant, peut-être dans notre ADN, mais c'est vrai que je connais pas vraiment de série française qui fait des blagues, ne serait-ce que sur Star Wars, qui est quand même le truc de base où tu fais des blagues aux États-Unis. Et c'est vrai que nous, bah, tu vois, moi, dans Bloqué, on s'est marré. On a fait des rêves à Space Jam ou à King Kong ou à This Is It. Et c'est des rêves qui font partie de nous. Et c'est trop kiffant de pouvoir les mettre sans se dire « Oh là là, mais attendez, est-ce que tout le monde va comprendre ?» Et en fait, c'est ça qui est trop bien dans vieillir également. C'est type, putain, les gens qui achètent des DVD, matent des trucs sur Internet ou regardent la télé, commencent à avoir notre âge. Et du coup, quand tu leur dis Space Jam, ils font « Bien sûr, j'ai vu Space Jam. »
Et puisqu'on parle de cinéma, alors du coup, est-ce que ça vous démange un petit peu?
Ouais, bien sûr. En fait, moi, et je devrais vraiment pas dire ça à Cannes Série, mais moi, je suis plus cinéma que série en vrai, parce que j'adore le format cinéma. Non, mais je parle en tant que créateur. En tant que consommateur, voilà, il y a des séries qui m'ont... J'ai plus été retourné par des séries que des films dernièrement, tu vois. J'ai découvert This Is Us, là, mais c'est une tuerie, ce truc, c'est incroyable.
Ça chiale, ça chiale.
Non, mais même... Enfin, je suis au début, après, on m'a dit, ça devient relou, le côté chiale tout le temps, mais le début, le premier épisode, moi, je connaissais pas le concept et tout, et je vais vraiment pas vous le spoiler, mais tout est ouf, quoi. Mais en tant que scénariste, pour le moment, ce qui m'excite, ce serait le cinéma, parce que je trouve ça chambé d'écrire une histoire sur une heure et demie, et je vois l'arc narratif et machin sur une série, c'est tellement long. Mais voilà, et surtout, alors pour le coup, j'ai fait une série, bon, j'en parlerai peut-être à la fin, mais un film, ça m'exciterait, et je travaille dessus de mon côté, mais là, c'est beaucoup trop tôt pour dire quoi que ce soit, mais voilà, en tout cas, j'aimerais, je suis dessus là.
Et une série en ce moment, donc.
Alors voilà, c'était vraiment lancé ton truc, c'est ouf. Alors, pour un truc dont je n'ai pas le droit de parler. Non, en fait, j'ai écrit une série avec, je peux dire le nom des gens.
Bon, entre nous, là, il y a à peu près personne qui nous écoute.
Ouais, mais vraiment, j'ai signé un contrat qui fait que je suis vraiment dans la merde si j'en parle trop, mais en gros, j'ai écrit une série avec des gens qui s'intitulent Axel Malivernet, Adrien Méniel, avec qui je fais Floodcast, et Robinson Latour. C'est un 10 fois 24 minutes. C'est tourné, monté, étalonné, effixé, tout est prêt. C'est une série qu'on a créée. On a écrit 10 épisodes de 26 minutes, de 22, ouais, enfin en tout cas d'une vingtaine de, le format d'une vingtaine de minutes. Et ça va sortir, mais le truc c'est que voilà, ça va sortir dans un truc où, qui n'est pas encore prêt. Et quand ce sera prêt, ça sortira. Donc voilà, c'est un truc à la Netflix un peu qui va sortir.
D'accord.
Mais et voilà.
Un nouvel opérateur.
Voilà, un truc un peu de ce style. Et voilà, et c'est un truc très... qui se veut très sitcom, qui est pas voilà, qui est pas un truc sur la dépression machin, qui se veut vraiment plus gaguesque dans la lignée de trucs comme par exemple 30 Rock ou Kimmy Schmidt, voilà, des trucs.
Et pour des le trucs, coup, voilà, là, trucs qui n'existent quasiment pas en France, ouais, clairement, on n'a jamais vu des choses équivalentes, quoi.
Bah non, parce que déjà, vous avez peut-être des diffuseurs ou des producteurs qui vous expliqueront que ce format-là de 22 minutes et tout n'existe pas en France, ouais. Parce que en France ça peut exister, mais faut en faire beaucoup, parce qu'en France on diffuse par
par 3-4 à la suite.
Voilà, ouais. C'est ça, à 20h50. Aux États-Unis, ils sont pas du tout dans ce truc-là, parce qu'en fait, ils en diffusent... ils ont tellement de séries lancées de 22 minutes et tellement de pubs. Bah,
oui, les pubs qui entrecoupent, ah, bien sûr. 22 finir en 52, quoi.
Voilà, c'est ça, mais vraiment. Et surtout, ils te font des soirées spéciales, genre la Fox, le soir, t'as un Simpson, un Griffin, un American Dad, et voilà. Et donc, du coup, t'as une énorme soirée de 12 séries. En France, on n'a pas le moyen de créer énormément de séries comme ça, et on sait pas si ça intéresse vraiment. Et c'est vrai que depuis H... on n'a pas vraiment de 22 minutes. Okay, Canal qui faisait ça juste avant le film le samedi, on vous met un petit 22 minutes, quoi. Mais sinon, ça n'existe pas, tu vois. Donc voilà, nous, on l'a fait sur un nouveau diffuseur. On espère que ça va plaire aux gens. Et effectivement, il y avait cette liberté totale de se dire, bah, du coup, il y a tout à faire. Et voilà, et moi, je suis méga fan du travail de Tina Fey. Je trouve que c'est une des plus grandes head writers aujourd'hui. Et voilà, on est dans ce truc-là aussi de mettre de la ref un peu précise. Et on est trop content qu'elle la fasse parce que justement, elle ne fait pas des blagues sur Star Wars, mais elle fait des blagues sur... Robert Durst, enfin tu vois, des trucs vraiment très précis. Et bah, nous on a voulu faire ça à la française quand même, parce qu'on se réclame pas forcément des Américains avec nos refs à nous. Mais voilà, j'espère que ça.
Un petit community like.
Ouais, après community, tu sais, c'est un peu tristoun quand même, c'est très profond. Après, effectivement, on a des trucs très. On a un des personnages où notre inspiration était Steve Carell dans Anchorman. Donc un mec vraiment mais débile de l'espace, c'est-à-dire que c'est même pas c'est pire qu'Aurel dans
carrément
dans,
lunaire dans Bloqué. Quoi.
Ouais où tu dis mais en fait il est vraiment chelou et on a pu aller très loin dans des vannes comme ça et voilà j'espère que ça plaira aux gens, je serais ravi d'en reparler chez vous mais quand ça sortira on attend que ça sorte là. Donc.
Merci beaucoup Flaubert, on va vous laisser déjeuner cool. Avec Serge Lemiteau et Aurel San qui doivent bien avoir la dalle là du coup.
Oui.
Merci Nora. Mais
ils ont commencé sans moi.
Merci
hein,
beaucoup.
Merci Jean-Maxime.
Serge
Lemiteau
n'a jamais faim, hein. Je crois ouais. Que il mange jamais.
À ce soir 18h, merci encore.
Merci encore, merci beaucoup.
C'était Next Episode sur Séance Radio, en direct de Cannes Série.